Les ETF Ethereum Spot sont-ils en mauvaise posture? C'est ceux qu'ont confié plusieurs sources proches des candidats. On en parle dans un instant.
Le Crypto Daily.
Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi.
Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et donc, vous l'avez compris, c'est notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la nouvelle réglementation AML en Europe et des ambitions de WorldCoin. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché.
Here comes the money. Here we go.
Alors, la semaine se termine en dents de scie pour le marché des cryptos. Bitcoin gagne 0,3% et se situe à un prix de 64 500 $. L'Ethereum chute légèrement de 0,3% pour un prix de 3 140 $. BNB en très légère hausse, tandis que le Sol perd 2,4%. Le XRP augmente de 1%. Le Doge et le Ton perdent respectivement 0,48% et 2%. Et enfin, en dernière position, l'ADA chute de 1%. Allez, let's go, on passe aux news et on parle de la SEC. Ça faisait du bien, pendant un petit moment, on avait moins parlé de la SEC et franchement, c'était pas plus mal. Mais là, avec les ETF Ethereum Spot, c'est sûr qu'on va beaucoup en reparler. En tout cas, la SEC s'apprêterait à rejeter les ETF Ether. Alors, après les ETF Bitcoin Spot, l'écosystème crypto s'attendait à une approbation sans heurte des ETF Ethereum Spot. Mais depuis quelques mois, le doute règne et la SEC semble être hésitante. Ces rumeurs viennent d'être alimentées par un nouveau rapport de Reuters qui a interrogé des sources proches des dossiers, dont des candidats aux ETF. Et selon le média, la SEC rejetterait les candidatures aux ETF le mois prochain. Je cite « Les candidats américains et les autres firmes s'attendent à ce que la SEC rejette leur candidature après avoir refusé des entretiens avec l'agence au cours des dernières semaines. » Alors, il est vrai que la SEC s'est montrée taciturne en ce qui concerne les ETF Ethereum. C'est également l'avis de Jan Vanek, le PDG de Vanek, qui faisait part de ses prédictions pessimistes en début de mois. Je cite
« Le déroulement du processus légal est tel que les régulateurs vous font part de leurs notes sur votre candidature. C'est ce qui s'est passé pendant des semaines et des semaines avec les ETF Bitcoin. Mais maintenant, concernant Ethereum, le silence est total. »
Alors, le dernier signe de la SEC a été un appel à commentaires sur les ETF Ethereum de Grayscale, Bitwise et Fidelity. On en parlait hier ou avant-hier. Mais il n'augure en rien d'une quelconque approbation. Il montre juste que le gendarme financier américain s'interroge sur le sujet. A noter qu'au total, c'est 7 candidatures qui ont été envoyées à la SEC. Les hésitations du gendarme financier américain se basent certainement en partie sur le fonctionnement d'Ethereum qui diffère de Bitcoin. Le réseau Ethereum fonctionne en effet avec un mécanisme de staking. Les participants peuvent mettre en jeu leurs tokens pour sécuriser le réseau et recevoir de l'Ether en retour. Alors en fait, ce mécanisme, il est un peu trop proche de se apparenter aux valeurs mobilières pour la SEC et elle a d'ailleurs plusieurs fois entretenu un certain flou sur le statut de l'Ether. On se rappelle notamment de la scène au tribunal où Gary Gensler, donc le patron de la SEC, était en train de ne pas répondre à la question « est-ce que c'est une valeur mobilière, oui ou non ?» Il répondait pas, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. En tout cas, selon les sources interrogées, le gendarme financier américain pourrait aussi argumenter que les ETF Ethereum hors spot n'existent pas depuis suffisamment longtemps. Pour le Bitcoin, les prémices des ETF spot existaient en effet déjà depuis un certain temps, d'où une conclusion plutôt pessimiste d'une des sources interrogées par Reuters. Je cite
« Il est entièrement possible que nous voyions éventuellement des ETF Ether, mais pas avant que ceux-ci ne soient rejetés une première fois et que les candidats doivent faire appel à la justice. »
Alors, ceux qui pensaient que la SEC serait amadouée par l'approbation des ETF Bitcoin Spot vont donc peut-être être déçus. Bien entendu, on vous tient au courant.
Le tout dernier launch pool de Binance est disponible. Il s'agit du projet Renzo Protocol. En fait, Renzo, c'est une nouvelle solution qui a pour objectif de rendre le staking d'Ether plus simple et plus rentable. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui à farmer des tokens REZ, R-O-Z, du projet de Renzo Protocol en stackant des BNB et des FD-USD sur la plateforme. Alors, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur l'application Binance et de vous inscrire si cela n'est pas déjà fait. Une fois connecté, vous n'avez plus qu'à stacker des jetons BNB ou mieux encore, des stablecoins FD-USD afin de vous couvrir de la volatilité. Vous recevrez alors des tokens quotidiens jusqu'à la fin de base du farming qui est prévu le 30 avril 2024. Notez que si vous conservez en stacking vos BNB ou FDUSD, vous serez automatiquement éligible à recevoir des récompenses lors des prochains launch pools. Partenariat rémunéré.
En deuxième news, on parle du Parlement européen qui vient d'adopter un nouveau cadre légal pour lutter contre le blanchiment d'argent, donc l'AML, et le financement du terrorisme. Patrick Hansen, donc le directeur de la stratégie et de la politique européenne de Circle, a voulu apporter des précisions sur le sujet. D'un point de vue légal, ce texte ne s'adresse pas précisément aux exchanges crypto, mais à l'ensemble de ce qu'on en appelle dans le texte les entités obligées. Cela inclut toutes les institutions non financières potentiellement concernées, qui sont par exemple des plateformes de jeux en ligne, des clubs de football, et donc aussi des exchanges crypto ou des crypto asset service providers. Les CASP, l'équivalent un peu des TSAN en fait. Le dirigeant de Circle insiste d'ailleurs sur le fait que les fournisseurs de matériel, de logiciels ou de portefeuilles crypto dits non custodial ne sont donc pas concernés par la loi. Ces CASP seront donc dorénavant soumis à de nouvelles obligations en matière de vérification de l'identité des utilisateurs. Mais l'ensemble de ces acteurs étaient de toute façon déjà obligés de le faire en vertu d'une loi actuelle. Par contre, le texte ajoute officiellement l'interdiction de proposer des crypto-monnaies dites anonymes, mais le règlement MiCA interdisait d'ores et déjà la possibilité. Alors, l'AMLR précise aussi que les transferts vers des portefeuilles non custodiales seront soumis à des mesures d'atténuation des risques, telles que la collecte des données sur l'origine et la destination des fonds. Mais encore une fois, Patrick Hansen insiste sur le fait que cela est déjà obligatoire. Une autre partie du texte concerne les paiements en espèces au niveau européen, qui sont dorénavant plafonnés à 10 000 euros, même si chaque État peut décider d'abaisser cette limite s'il le souhaite. Par contre, il était aussi question d'une limite pour les paiements issus d'un portefeuille crypto non custodial, et le texte final n'a pas retenu cette option. Pour les paiements crypto issus d'un CASP, le KYC sera par contre indispensable, et pour les sommes supérieures à 1000 euros, des vérifications supplémentaires seront potentiellement demandées. Alors, Patrick Hansen veut quand même dénoncer le FUD et le bruit médiatique sur les réseaux sociaux par des personnalités qui ont crié à la fin des portefeuilles non custodiales et des paiements en crypto. Et même s'il n'est pas fan de la nouvelle autorité pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme créé pour l'occasion, il insiste sur les aspects positifs de ces lois qui permettent encore beaucoup de choses en Europe.
Merci d'écouter le Crypto Daily.
Et enfin, en dernière news, WorldCoin travaille sur un partenariat avec PayPal et OpenAI. Alors, le succès du projet WorldCoin est indéniable et son expansion se vérifie chaque nouvelle semaine qui passe. On parle de 5 millions de personnes avec un World ID, presque 10 millions d'utilisateurs et 137 millions de jetons distribués dans 160 pays. Alors, pour rappel, WorldCoin se présente comme un protocole ouvert préservant la vie privée et gratuit, destiné à devenir le plus grand réseau public d'identité et financier du monde. Le projet ambitionne d'authentifier l'humanité des utilisateurs dans un contexte de prolifération des bots et des deepfakes. Tools for Humanity, l'entreprise à l'origine du projet de numérisation de l'iris WorldCoin de Sam Altman, envisage désormais des collaborations avec des entreprises majeures du secteur technologique et financier. Selon Bloomberg, des discussions préliminaires ont notamment eu lieu avec PayPal et OpenAI, bien qu'aucun accord concret n'ait encore été établi à ce jour. Alors, Alex Blagna, le PDG de Tools for Humanity, a mentionné l'existence de conversations avec ces entités, mais a souligné que rien n'était prêt à être annoncé officiellement. En 2021, Tools for Humanity a bénéficié d'un tour de financement de 25 millions de dollars, valorisant l'entreprise à 1 milliard de dollars. Et l'an dernier, WorldCoin a aussi collaboré avec Okta, OKTA, une entreprise de cybersécurité, pour développer un service d'authentification Sign-in with WorldCoin, utilisable par les développeurs comme alternative aux services similaires d'Apple et Google. En parallèle, le projet explique que pour continuer à grandir, il va aussi devoir augmenter le nombre de jetons en circulation. Je cite
« World Asset prévoit de vendre en moyenne entre 0,5 million et 1,5 million de WLD par semaine. L'offre en circulation de WLD augmentera ainsi en conséquence. »
Alors, sachant qu'il y a actuellement déjà 193 millions de jetons en circulation, cela pourrait donc représenter entre 6 et 19% d'augmentation en fonction du nombre de jetons distribués par semaine, ce qui, quand se le dise, c'est important pour un projet de cette taille. À noter, et je terminerai là-dessus, que c'est l'entité World Asset en charge de l'émission des WLD pour WorldCoin qui va piloter l'opération, et ce sont des sociétés de trading institutionnelles qui seront concernées par ces ventes. Je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et je vous retrouve juste après.
Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Terraform Labs qui restreint les accès aux citoyens américains. L'entreprise a annoncé des ajustements opérationnels suite à une décision judiciaire récente liée au procès de la SEC contre l'entreprise. Terraform Labs limitera l'accès de ses clients américains à certains produits dès la semaine du 28 avril. La BNB Chain va intégrer le liquid staking nativement. L'intégration de cette fonctionnalité à la BNB Smart Chain est prévue entre avril et début mai. C'est une étape intermédiaire à l'arrêt définitif de la BNB Beacon Chain en juin 2024. Stripe va permettre aux commerçants d'accepter les paiements en USDC. Stripe prendra en charge les transactions USDC sur les réseaux Ethereum, Solana et Polygon. Et on termine la semaine avec une mauvaise nouvelle pour l'ETF Bitcoin de BlackRock. L'IBIT de BlackRock a connu un arrêt des nouveaux investissements ce mercredi. Ça met fin à une série de 71 jours consécutifs de gains nets depuis son lancement le 11 janvier dernier.
Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi.
C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.